Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Ma religion, c'est lesbienne. Ça, c'est... Je crois que c'est un des premiers mots que j'ai dit dans ma vie. Lesbienne.
Dis papa, lesbienne. Maman, lesbienne.
Ça, c'est ma vie. J'ai remarqué qu'il y avait un gros beauf en moi quand je draguais les filles. C'est horrible. Ouais, je suis un beauf quand je drague les filles. Je me suis analysée, c'est terrible. La fois, j'étais au restaurant et la serveuse a ramené la carte du restaurant et j'ai dit « Bah, y a pas la serveuse au menu ?» J'ai honte, d'accord ? J'ai honte. Et il y avait trop de musique, du coup elle a pas entendu. Mais comme je suis un putain de beauf, j'ai répété. Même Bigard, il aurait fait, non c'est chaud, là vraiment c'est chaud.
Dans le monde du stand-up, il existe un gap entre celles et ceux qui cherchent à en vivre et celles et ceux qui réussissent à en vivre. À ce jeu-là, il n'y a pas de règles. J'ai vu des copains exploser en moins d'un an, quand d'autres attendent encore un succès qui n'arrivera peut-être jamais. Shirley Soignon, c'est un peu l'une des mamans du stand-up aujourd'hui. Elle en vit depuis des années et, comme beaucoup, a eu un parcours absolument pas linéaire.
Je m'appelle Shirley, je fais du stand-up, j'ai 33 ans. Je fais de la scène depuis 12 ans, du stand-up depuis 5 ans. Voilà. Ma première scène, la première, c'était au Joko. C'est une salle qui s'appelait le Joko dans le premier arrondissement de Paris. Donc j'ai écrit un sketch en une semaine où il y a un accent ivoirien, je mets des guillemets. C'est plutôt un accent africain vraiment très chaud. Et ça fait rire parce qu'il y a un accent. Et je m'en rends compte très vite. Donc le sketch, j'ai dû jouer 4 fois en me disant, bon, je pense que j'aime écrire depuis très jeune. Et le texte m'importe beaucoup. Donc vraiment, quand j'ai vu que c'était l'accent qui faisait rire, sans comprendre que c'était raciste, hein, j'étais pas à ce niveau de réflexion encore. Je me suis juste dit, clairement, c'est que l'accent là. Dans le fond, le texte, il est pas ouf, il y a des jeux de mots. Essaye de travailler un texte.
Et comment s'est passée cette transition de tes débuts au moment où t'as commencé à en vivre ?
Ah, où j'ai commencé. En fait, ça a été très très vite, trop vite même. J'en ai vécu, au bout de 3 ans de scène. Parce que c'était l'époque où l'humour cartonnait. Donc il y avait On ne demande qu'à en rire avec Laurent Ruquier, Jamel Comedy Club. Il y avait beaucoup de choses qui arrivaient, plein de produits. Et nous, on était un peu dans la machine à laver de ces produits-là. C'est-à-dire, on nous a mis dans le tambourin en disant « Ah, vite, il nous faut de la chair fraîche. » Donc moi, je faisais partie des jeunes humoristes qui avaient un profil atypique. On entend par atypique le fait d'être noire, une femme et lesbienne. Ça avait dans la balance un truc important. Pour eux, évidemment. Mais le fait de l'accepter, ça m'a permis de grandir aussi sur ma mission, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire, le jour où j'ai décidé de vraiment parler de qui j'étais et de plus faire des sketchs sur les Américains, de plus faire des trucs qui plairont à tout le monde, je me suis dit, j'ai essayé de me plaire à moi. C'est devenu intéressant. J'ai perdu beaucoup de mon public homophobe. Oh, dommage. Mais du coup, je me suis rapproché plus de moi aussi. Donc, toutes ces épreuves-là que j'ai vécues étaient importantes, ouais. Le premier sketch que j'ai fait, qui a créé... En fait, j'étais pas encore en production, encore signé par une autre boîte. Et le premier sketch que j'ai fait qui a posé problème entre guillemets entre nous, c'était que je voulais dire que, parce que c'était l'époque de la manif pour tous et j'avais besoin de répondre à ça, là je me sentais quand même d'un coup concerné, j'étais plus une personne, j'étais une lesbienne touchée et humoriste qui donc pouvait parler, et là j'avais la chance de faire le festival de Montreux cette année là et j'ai dit il faut que je fasse un truc sur le fait que je suis une fille noire humoriste à l'ox homosexuelle, que soi-disant c'est une accumulation de problèmes, mais je vais leur montrer que tout va bien. Et donc j'ai dit ouais, donc je disais à mes producteurs, je veux dire que je suis lesbienne. Alors j'avais pas vraiment, enfin c'est pas un coming out pour moi, c'était juste une information que j'avais vraiment jamais dite en média et qui forcément, et en plus à cette époque-là, était pas forcément aussi évident que ce qu'on pense. C'est-à-dire que ça paraît simple et en même temps pas du tout. Donc j'avais jamais eu de problème au fait de parler de ma sexualité et d'un coup je sentais mon cœur battre fort de me dire ok, il va falloir quand même que je le dise dans un micro amplifié. Et le fait que ça me fasse un peu peur m'a montré qu'il fallait que je le fasse. Donc ça a été un des premiers sketchs polémiques entre guillemets avec mes prods. Ils ont dit mais vraiment on va perdre ton public homophobe. J'étais là vraiment c'est pas grave.
Ouais. Aucun regret.
Aucun regret. Au contraire. Et donc ça a été dur de sortir déjà du. C'est même pas de l'humour qu'il a fallu sortir, c'est de la télévision.
Est-ce que tu peux m'expliquer plus spécifiquement ce que tu faisais pour la télé?
Ah ouais ouais. Bah on demande qu'à en rire. En fait c'était une émission quotidienne que je faisais pas au quotidien, mais qui nous prenait un temps fou parce qu'il fallait écrire au moins un sketch par semaine. Quand t'es jeune humoriste en plus, écrire une fois par semaine, c'est là où t'apprends vraiment. J'ai appris énormément de choses grâce à ça. C'est-à-dire que écrire en une semaine, c'est une dextérité du cerveau qu'il faut avoir et acquérir, que j'ai eu grâce à cette épreuve. En télévision, j'ai eu la chance aussi de faire le Jamel Comedy Club, le Marrakech du Rire, de présenter une émission sur C-Star à l'époque qui s'appelait les Jam Sessions, où on présentait des musiciens venus du monde entier du groupe Universal Music. Donc on avait vraiment des très grosses stars qui venaient. Et moi, je présentais en ouvrant avec un stand-up. Je faisais des interviews des artistes. J'ai fait une émission de radio avec Yacine Dedo qui s'appelait le Comedy Club Live. Et après, j'ai fait Europe 1 avec Anne Roumanoff pendant 3 ans. Et tout a démarré en fait avec La Roue du Rire 2009 sur France 4. Parce que j'ai gagné la Roue du Rire 2009 et que ça m'a amené au Festival de Montreux qui est aussi un gala télévisé, et de là on m'a beaucoup vu en fait, et ça a été après l'enchaînement de plein de propositions. Moi très vite j'ai pris conscience que c'était pas le bon chemin pour faire du stand-up, mais j'étais signé en production à l'époque, donc j'étais pas seul à prendre des décisions sur ma carrière. Alors pour être libre dans mes choix, j'ai monté ma société à la fin du contrat de prod que j'avais. Et c'est en montant ma société que j'ai vraiment pu faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire du stand-up. Et m'entraîner des soirs dans des caves, galérer, gagner ma vie au chapeau, accepter les règles du stand-up telles qu'elles étaient à l'époque. C'est-à-dire ne plus avoir les cachets de France 2 ou d'Europe 1 et vraiment être dans l'underground, quoi. J'avais pas du tout pensé à monter une boîte. Et j'ai fait ça pour l'artiste que je suis, la productrice a fait ça pour l'artiste que je suis, pour lui donner le maximum de terrain de jeu possible.
À quoi ça sert exactement un producteur quand c'est humoriste ?
Non, ça sert à ramener de l'argent. Ça sert à ramener de l'argent, mettre des moyens en place. Aujourd'hui, le truc étant que pour le stand-up, et c'est pour ça que j'ai monté un comedy club, on n'a pas besoin de producteur, on a besoin d'être marrant.
Précision. Un producteur, au-delà de faire chier, comme le dit avec humour Charles Soignon, ça sert à plein de choses, à commencer par faire décoller la carrière. Un prod permet de trouver des scènes, d'aider à angler un spectacle et de mettre un budget dans une vraie communication autour d'un humoriste. Cela permet de faire venir un public plus nombreux. En bref, c'est surtout censé être un booster dans la carrière d'un stand-upper. Depuis la rentrée 2019, Shirley a ajouté à ses activités l'ouverture d'un comedy club dans le 18e, à Paris. Le Barbès Comedy Club.
En vérité, le meilleur producteur, c'est le public, hein, c'est lui qui paye les places. S'il paye pas les places, c'est que t'es pas assez drôle ou t'es pas assez connu pour être... Bon voilà, il y a un truc qui a pêché. Et un comedy club est là pour soutenir l'humoriste et donner confiance au public de venir, peu importe le nom de la personne. Genre faites-nous confiance, ça sera du bon stand-up. Le stand-up doit dépasser l'ego des artistes aujourd'hui. Pour moi, c'est ça où on doit. Aujourd'hui, on a quelques gars qui sortent du lot en France. On est bien plus que ça. Et il y a bien plus de talent que ça. Sauf que le marché du producteur, ça nique un peu le délire. Parce qu'il suffit qu'un mec soit pas ouf, mais on lui met beaucoup d'argent dessus. Et d'un coup, c'est marrant, il est très marrant. C'est ça qui est fou.
Et comment t'es venue l'idée de monter ton comedy club ?
Parce qu'il n'y en avait pas assez. Il n'y en avait qu'un seul. Et donc, ça commençait à faire petit pour le monde de l'humour du stand-up. J'avais besoin, moi, de justement, avec toute la frustration que j'ai eue de ne pas pouvoir développer mon stand-up à l'époque, comme je l'aurais voulu, c'est ce besoin d'avoir une salle dans laquelle je puisse m'entraîner quand je veux. C'est genre, j'ai pas de chambre, j'en fais une. Ouais.
C'est beaucoup de travail de monter un comedy club.
Ouais, c'est beaucoup de travail de monter un comedy club. C'est un travail permanent. C'est une machine, en fait. C'est un truc qui est ouvert tous les jours, à partir de 18h. C'est comme mon chien, genre, tous les jours, il veut sortir. Tous les jours, il faut que je m'occupe du comedy club. C'est une belle machine, je suis vraiment heureux. Ça fait un mois qu'on a ouvert et c'est très bien parti. Hein. Mais c'est une fatigue, vraiment. Si, même si ma carrière est en péril pour ça, je suis trop heureuse. C'est pas le cas, hein, mais si ça devait être le cas, si je devais sacrifier ma vie sur scène, je suis trop heureuse de voir des gens contents d'être de venir faire des blagues ici, de se sentir bien, de se sentir à la maison. Vraiment, je suis très heureuse de voir ça. Il y a trop de peur dans... En fait, il y a un truc que j'ai ressenti quand j'ai commencé, que je veux pas que les gens ressentent, c'est ce côté... On n'est pas dans un... Je sais pas comment dire... Un casting, quoi. On n'est pas dans une salle de casting avec... Il n'en restera qu'un. Tout le monde est bienvenu dans le stand-up et tout le monde a sa place. Et quelqu'un, on m'a posé la question hier, quelqu'un qui... comment ça s'appelle ? Qui est nul pendant 6 mois, vous savez même pas à quel point il peut devenir un génie le lendemain. C'est une question... Des fois, c'est juste parce qu'il a une peur immense à dépasser qui fait que tout ce qu'il dit sur scène, c'est de la merde. Alors qu'en vérité, il y a un truc, quoi. Et donc, c'est ça que je trouve beau dans le stand-up, c'est on peut pas figer le destin de quelqu'un. C'est impossible.
T'en as vu, toi, des comme ça qui étaient extrêmement mauvais, qui ont percé de ouf ?
Ouais, bah, tous. Tous, presque.
Après Shirley, je suis allée voir Tania Dutel. Je l'ai rencontrée en 2012 et pas sur scène. À l'époque, elle était assistante administrative de l'école où j'étudiais. Je ne le savais pas, mais ce n'était pour elle qu'un job alimentaire. Elle aspirait déjà au métier d'humoriste.
Est-ce qu'on n'aborderait pas 30 secondes le sujet des couilles ? Eh ben c'est parti. Parce qu'il y a pas longtemps à la sortie de mon spectacle, un mec m'a dit « Je vais te faire un compliment, t'as vraiment des grosses couilles ». Oh, bah je vous cache pas que je m'attendais à un autre compliment. Et je comprends pas pourquoi on dit que les couilles sont symboles de virilité. Vous avez déjà entendu le bruit d'un mec qui se prend un coup dedans? On dirait Sophie la girafe.
En fait, moi, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 7 ans. J'ai toujours aimé jouer. Et quand en montant à Paris, je savais que je voulais jouer, mais je savais pas quoi. J'ai jamais été très fan, forcément, du théâtre classique. Enfin, je trouve ça très beau, mais moi, je me vois pas faire ça. Et en arrivant à Paris, en voyant Mustapha Alatraci, je me suis dit, mais en fait, c'est un métier et je peux peut-être faire ça. Et juste après l'avoir vu, en fait, j'ai commencé à faire ça.
Entre le moment où tu t'es lancée et le moment où tu t'es dit que vraiment tu vivais du stand-up, il s'est passé combien de temps ?
Oh là, il s'est passé 7 ans. Mais en fait, moi, j'ai commencé aussi quand j'étais étudiante. Tu vois, j'ai commencé à 19 ans, donc j'ai commencé à en vivre à 25-26 ans. En fait, au début, je ne savais pas. J'ai commencé à faire ça par hobby, en fait. Moi, j'arrivais de région lyonnaise, je connaissais personne à Paris. J'étais à l'école que 2 jours par semaine, donc en gros, je voyais pas grand monde. Et du coup, j'ai commencé à sortir et à jouer. Et après, du coup, j'étais tous les soirs en train de jouer partout, dans tous les endroits de Paris, tous les bars où il y avait des passages, des plateaux d'humour, tout ça. Après, j'ai commencé à bosser. Je dis non, je veux vraiment faire du stand-up. Donc, j'ai pris un job alimentaire pour pouvoir vivre en continuant à faire du stand-up, quoi. Et du coup, après, ouais, il m'a refallu genre 4 ans pour arriver à en vivre.
Et tu te souviens du moment où tu t'es dit « c'est bon, j'en vis » ?
C'était en juin 2016, parce que je venais de faire mon dernier goûter d'anniversaire. En fait, mon statut intermittent, à la base, je l'ai eu parce que j'animais des goûters d'anniversaire, que je faisais des animations dans les TGV. Ah, tu crois que j'avais fait un goûter d'anniversaire pour moi ?
Oui, non, mais je comprenais pas. Il n'y avait pas de contexte, écoute.
Ouais. Donc, je faisais ça. Je faisais des animations dans les TGV. Et attends, il y avait un autre truc nul aussi, je crois que je faisais des formations dans les Franprix aussi. Pour apprendre aux vendeurs à dire bonjour, merci, au revoir et à sourire.
Et donc, tu avais eu un statut intermittent qui te permettait de vivre.
Ouais.
Grâce à toutes ces activités qui n'étaient pas de stand-up, en fait.
C'est ça, mais t'es obligé de tout de suite continuer à faire des cachets dans le stand-up, sinon tu perds ton statut. Mais en fait, le dernier goûter que j'ai fait, c'était en juin 2016, et après, j'ai eu des cachets avec mon spectacle, quoi. Et du coup, là, j'ai vraiment Arrête. C'est pour ça que je dis, en fait, pour moi, que je mets 7 ans, parce que, en vrai, je suis devenue intermittente avant, mais comme c'était encore des jobs alimentaires, pour moi, j'en vivais pas encore, quoi. Donc, je compte à partir du moment où j'ai arrêté de faire les goûters et que, vraiment, je suis devenue intermittente du spectacle grâce à mon spectacle.
Si Shirley Soignon et Tania Dutal ont réussi à vivre du stand-up, d'autres font carrière grâce au stand-up, sans forcément monter sur scène.
Tous les jours, on devait écrire entre 3 et 5 minutes de blagues pour du direct sur Canal. Et ça, ça fait taffer de ouf. Hein. C'était vraiment dur.
La suite, au prochain épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.